C'est une pauvreté qui touche de plus en plus les familles avec enfants. Ils représentent la majorité, hein, c'est 52% des personnes que l'on accueille qui ont des enfants, donc des familles monoparentales ou des couples avec enfants. Et on voit très nettement, depuis 5-10 ans, qu'ils sont, eux, de plus en plus fragiles. C'est-à-dire les personnes seules et les couples sans enfants s'en sortent un tout petit peu mieux que les familles avec enfants. On a aussi de plus en plus de migrants. C'est environ un tiers des personnes que nous accueillons qui sont d'origine étrangère, avec différentes situations. Hein. 4 sur 10 sont en situation régulière, 4 sur 10 sont en attente de papier, et puis on en a un peu moins de 20% qui sont en situation irrégulière. Et pour certains d'entre eux, ce sont des personnes sans revenus.
Ce qui vous a également frappé cette année, c'est la question du travail qui ressort particulièrement du rapport.
Nous avons seulement 15% des personnes que nous rencontrons qui sont en emploi. Et encore, parmi ces personnes, 9 sur 10 sont sous le seuil de pauvreté. De plus en plus sont dans des emplois à temps partiel. Et de plus en plus aussi, depuis 2008, hein, sont travailleurs indépendants. Ça, c'est le système d'auto-entrepreneur qui permet ça, qui est à la fois une bonne chose, mais qui en même temps fragilise beaucoup les personnes parce que c'est des tout petits revenus et il n'y a pas de sécurité. Donc c'est les gens qui travaillent, il y en a peu qui travaillent, mais parmi eux, ceux qui travaillent, ils sont en grande fragilité.
Donc finalement, même le travail lui-même n'est plus un rempart forcément contre la pauvreté.
Absolument. Absolument. Alors seul, le CDI à temps plein, c'est surtout le temps plein, normalement ça vous permet de gagner à peu près correctement votre vie. Mais encore une fois, quand il y a un seul SMIC à temps plein dans une famille avec enfants, il reste sous le seuil de pauvreté. Hein. On voit beaucoup d'augmentation du temps partiel et donc ou de l'intérim aussi. Donc des gens qui ont des revenus fragiles, incertains, donc ils ne savent jamais d'un mois sur l'autre combien ils vont gagner, est-ce qu'il faut demander un petit complément de RSA ou pas. Du coup, chaque dépense doit être comptée à l'euro près. Donc c'est des vies très difficiles et qui nous frappe aussi depuis quelques années et qu'on voit encore plus cette année, c'est que les gens ils se battent parce qu'ils travaillent, ils essaient de s'en sortir avec un petit boulot, un travail en intérim. Ils sont courageux et malgré ça, ils sont montrés du doigt et stigmatisés. Donc ils souffrent énormément du regard des autres et de cette stigmatisation des pauvres, hein, de plus en plus présente là, dans le discours public et dans le discours politique notamment. Donc ça, c'est ressenti très très durement par les personnes que l'on rencontre.
Il y a cette thèse de l'assistanat qui est très mise en avant, en plus en période électorale, encore plus fortement. Ce rapport va un peu à l'encontre de cette idée-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Ça fait 2 années de suite que l'on observe que la première demande des gens qui viennent nous voir, c'est l'écoute. Ils ne viennent pas d'abord pour une aide matérielle, ils viennent d'abord pour être écoutés sans être jugés, parce que la pauvreté isole beaucoup. Et donc, c'est un peu le cri qu'on voulait transmettre aussi aux candidats aux primaires et puis demain à la présidentielle d'une manière plus large. Les pauvres veulent d'abord être écoutés, se sentir utiles et ils souffrent beaucoup du jugement des autres, du regard des autres. Voilà. Ce discours, en fait, il est toujours basé sur des idées fausses, sur l'idée, par exemple, que l'on gagne beaucoup plus d'argent, qu'on s'en sort beaucoup mieux quand on a le RSA que quand on travaille. Quand on est un homme célibataire hein, avec du SMIC à temps partiel, quelquefois ça peut être très proche, mais très clairement pour des couples et notamment des couples avec enfants, on s'en sort beaucoup mieux quand on travaille, quand on a un vrai travail, payé correctement et à temps complet, que quand on a le RSA. Donc il y a beaucoup d'idées fausses sur la fraude aussi. Hein. La fraude sur le RSA, c'est 100 millions d'euros. La fraude des entreprises, etc., c'est des milliards.
Sur cette question justement des ressources, une autre chose que vous mettez en évidence dans le rapport, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui sont sans aucune ressource également.
Oui, c'est lié, c'est-à-dire que oui, ça a augmenté aussi depuis quelques années, notamment depuis l'année dernière. On est quasiment à 20% de personnes sans ressources. Donc une partie d'entre elles sont des étrangers en situation irrégulière, donc ils n'ont aucune ressource. Bon, ce qui est normal, à part l'aide médicale, ils n'ont pas de ressources. Mais quasiment la moitié sont des gens justement qui ne demandent pas le RSA, par exemple, et donc ils se trouvent sans ressources. C'est très 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 inquiétant de savoir qu'il y a des gens qui auraient le droit d'avoir une petite allocation, même si c'est pas énorme, mais au moins une allocation, et puis surtout la sécurité sociale pour se soigner, etc., et qui préfèrent s'en passer, et donc vivre d'expédients, et surtout ne pas se soigner, donc risquer d'avoir des pathologies graves, etc.
Et pourquoi est-ce qu'ils préfèrent cela? C'est pour ne pas être stigmatisés?
La raison majeure, souvent, c'est le manque d'informations, parce que le système est devenu assez illisible, et qu'au fond, par exemple, quelqu'un qui est en intérim et qui travaille une fois de temps en temps, à temps partiel, une fois à plein temps, exceptionnellement, etc., il ne sait pas que dans les périodes de creux où il n'a plus rien, en fait, il pourrait demander le RSA. Mais il se dit, comme je travaille, c'est pas pour moi, quoi. Après, en deuxième point, il y a la complexité du dossier. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est des dossiers extrêmement complexes, donc ils renoncent. Et puis, la troisième cause, c'est qu'il y a beaucoup de gens, justement, contrairement à ce qu'on dit, qui ont leur fierté, et qui refusent, qui veulent s'en sortir tout seuls. Donc c'est assez vrai, notamment pour les jeunes diplômés. Les jeunes qui, à 25 ans, auraient le droit au RSA, mais ils ont des diplômes, et donc ils rechignent à demander le RSA. Donc les familles les aident, ils vivent chez leurs parents, justement. Plus ils ont de diplômes, et moins ils demandent.
Un point aussi qui est également important, c'est celui de la provenance, on va dire, géographique des personnes. On pense souvent à la pauvreté dans les banlieues, les choses comme ça, mais finalement, vous montrez que la pauvreté, elle est partout, et qu'en plus, elle va être différente, qu'on soit en milieu urbain, rural ou périurbain, où finalement, les demandes et le profil des personnes ne sont pas forcément les mêmes.
Oui, on voit effectivement la misère rurale qui est vraiment différente. Hein. C'est plutôt des familles avec des enfants, plutôt des gens qui sont dans un logement stable, alors qu'en ville, souvent, les gens sont en logement extrêmement précaire parce que le logement est très très cher et très compliqué. Donc en milieu rural, les gens sont plus au travail, mais c'est souvent un travail à temps partiel ou un travail saisonnier à la campagne. Et ils ont énormément d'impayés, de dettes donc, et notamment des dettes d'énergie parce que à la campagne, beaucoup de maisons sont mal isolées et donc les factures d'énergie sont énormes. Et un problème de mobilité aussi qu'on avait pointé du doigt l'année dernière plutôt. Si vous voulez travailler, quasiment obligé d'avoir une voiture. Le moindre pépin avec la voiture, d'ailleurs tout bascule, vous pouvez perdre votre travail parce que vous n'avez pas les moyens de faire réparer, etc. Donc on développe d'ailleurs de plus en plus des garages solidaires où les gens peuvent acheter, réparer, etc. des voitures dans les bonnes conditions pour pouvoir s'en sortir et donc continuer à travailler quand ils sont en milieu rural.
Au niveau national, au regard de ce nouveau rapport, quelles seraient les mesures importantes, quels seraient les axes importants pour lutter justement contre la pauvreté?
Alors la première serait sans doute la simplification du système, illisible et beaucoup trop complexe. On a par exemple 10 minima sociaux différents. Il y a déjà eu pas mal de travaux là-dessus, mais je pense qu'il faudrait arriver à avoir un seul minimum social pour toutes les situations difficiles, avec des petits ajustements, mais déjà un socle qui soit le même pour tout le monde. Hein. C'est pas un revenu universel, c'est autre chose, le revenu universel, mais c'est déjà un socle commun et avec un contrôle a posteriori, c'est-à-dire que les gens puissent accéder rapidement à leurs droits et facilement à leurs droits, et qu'après on fasse les contrôles, parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse, vous devez prouver que vous êtes vraiment sans rien, donc quelquefois vous restez des semaines et des mois sans rien en attente du dossier, et donc ça donne des situations dramatiques pour les gens qui sont sans aucune ressource. Qu'on commence par faire confiance aux gens, parce qu'en fait là on commence par les suspecter.
Quelles sont les autres mesures qui pourraient être prises?
On pourrait simplifier tous ces dossiers hein, avec le numérique, qui est un seul dossier une fois pour toutes, que les gens n'aient pas à redonner à chaque fois leur déclaration de ressources, certificat de non-imposition, etc., qu'il faut donner dans chaque administration. Voilà. Donc il y a un gros travail à faire de simplification pour un accès plus simple aux droits et que les droits soient liés et pour certains automatiques. Hein. Donc par exemple quand on a le RSA, enfin ou le minimum social, qu'on ait automatiquement la protection santé. Ça sécuriserait beaucoup les personnes qui sont en situation de pauvreté. On ferait sans doute des économies aussi en termes administratifs. Donc avoir un a priori de confiance, simplifier et unifier.
Et concernant l'emploi, comment pourrait-on lutter contre le chômage qui est une des grandes causes de la précarité, comme vous l'avez expliqué?
On est très attentif et assez optimiste par rapport à l'expérimentation sur les territoires zéro chômage de longue durée qui a été votée par le Parlement, qui est en cours là, et donc qui va permettre sur des petits territoires d'expérimenter la remise au travail des chômeurs de longue durée en créant des emplois sur mesure, entre guillemets, sur le territoire. des besoins non couverts sur le territoire par rapport à l'environnement, par rapport aux personnes âgées, par rapport à l'artisanat local. Et quand on met autour de la table les élus locaux, les entreprises, les artisans, les associations, les pouvoirs publics, les chômeurs de longue durée, etc., tous ces gens-là sont attachés à leur territoire. Ils ont envie de le faire vivre et ils vont imaginer des choses pour créer de l'emploi, pour rendre le territoire plus attractif, etc. Il y a des territoires qui sont déjà sur cette dynamique de travail depuis 2 ans et qui ont déjà créé des emplois sans attendre l'expérimentation officielle, etc. Parce que le principe, c'est que ce soit l'indemnité RSA qui devienne un salaire en CDI à plein temps. Il faut rechercher tous les moyens que les gens puissent accéder à un travail décent et rémunéré correctement et à plein temps, parce que sinon, il n'y a pas moyen, on ne sort pas de la pauvreté avec un travail à temps partiel.